Et ce matin, sur les ondes médias, nous avons décidé de parler de kleptomanie. C'est cette pulsion irrésistible de dérober des objets, alors souvent sans valeur, sans en avoir réellement besoin. On fait un zoom aujourd'hui sur ce trouble peu connu avec notre spécialiste en psychiatrie, Dr Hartmann Lorabi. Bonjour.
Bonjour et ravi d'être avec vous.
Merci beaucoup d'être là comme tous les jeudis matin. Alors d'abord, la kleptomanie, comment pouvez-vous définir donc cette pulsion, j'allais dire?
Écoutez, Marie, vous avez donné déjà beaucoup d'éléments qui correspondent à la définition exacte. C'est-à-dire que la kleptomanie va se définir concrètement par le fait de commettre plusieurs menus larcins, c'est-à-dire des petits vols d'objets sans valeur et dont le plus souvent la personne n'a même pas réellement l'utilité des objets qu'elle va dérober et qui va s'intégrer dans le cadre de la grande famille des troubles des habitudes et des impulsions, dans le sens où, vous l'avez très bien noté, c'est une envie qui est irrépressible. Et c'est une pulsion qui va nous prendre pendant un bref instant et qui va aboutir à ce comportement, le fait de dérober quelque chose. Alors, la kleptomanie en soi, ça peut être considéré comme une maladie, mais le fait de parler de kleptomanie maladie, c'est relativement rare, parce que le plus souvent, on va parler comme un syndrome, c'est-à-dire que cette kleptomanie peut intervenir lors de l'évolution de plusieurs autres troubles, notamment des troubles de la personnalité qui vont se manifester par une grande impulsivité. Donc on retrouve la dimension de difficulté à contrôler cette pulsion. Ça peut aussi être retrouvé lors de périodes particulières d'un trouble bipolaire. Ça peut aussi se retrouver dans des maladies neurologiques qui vont se caractériser par ce qu'on appelle une frontalité, c'est-à-dire qu'on aura du mal justement à arrêter les pulsions. Mais comme je le disais, ça ne va pas être le seul symptôme qui va être là pour nous cliniciens et que ça va s'intégrer. La kleptomanie va le plus souvent s'intégrer dans un ensemble un peu plus vaste. Mais toujours est-il que effectivement, il existe cette kleptomanie à titre isolé et on pourrait imaginer ou plutôt la décrire comme étant finalement à ce moment-là presque un analogue d'un trouble addictif où on va rechercher un comportement qu'on va répéter dans le but d'éprouver un certain plaisir et une certaine jouissance psychologiquement parlant.
Alors, en termes de traitement, comment ça se passe, docteur Lorabi?
Alors, la kleptomanie étant assez rare pour être en tout cas comme motif de consultation, parce que très souvent, la personne kleptomane ne l'avoue pas. Il y a une espèce de honte. C'est pas qu'il y a une inconscience, mais il y a une espèce de honte. On n'est pas dans le cadre ni de l'inconscience, ni de la manipulation, c'est-à-dire le fait de nier sciemment dans le but de manipuler. Mais la plupart du temps, ça ne va pas être un motif de consultation, sauf si cela s'intègre dans des souffrances beaucoup plus vastes qui intéressent d'autres domaines de la vie. Par exemple, comme je disais, du côté de l'humeur, du côté des relations interpersonnelles, etc. Et c'est là que peut-être on va se rendre compte qu'il y a effectivement une dimension un peu kleptomane, un syndrome de kleptomanie qui est associé. Et la prise en charge, à ce moment-là, elle va dépendre du terrain ou de la pathologie sous-jacente. Quand on parle de kleptomanie pure, le plus souvent, il faut qu'on peut travailler en thérapie. Il n'y a pas de thérapie spécifique, mais ce sont des thérapies qui vont viser à rétablir l'autocontrôle vis-à-vis des impulsions, de cette impulsion ou de cette pulsion, et donc qui vont être principalement à base de relaxation, d'arriver à donc diminuer l'espèce de tension psychique qu'on éprouve avant de commettre le petit vol, le larcin, sachant que en général il y a toujours la même séquence, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de tension psychique avec une certaine certaine excitation. Et puis, après le vol, il y a une espèce de soulagement de cette tension psychique et de cette excitation. Donc, le but étant d'arriver, à ce moment-là, d'un point de vue thérapeutique, à gérer cette tension qui apparaît. Donc, comme je le disais, par des exercices de relaxation qui vont être le plus souvent médiés par de la respiration abdominale contrôlée et aussi ben, la mise en œuvre de stratégies pour justement, si vous me permettez l'expression, se couper l'herbe sous les pieds et ne pas pouvoir commettre ce genre de vol. Par exemple, sortir, s'enfuir du magasin carrément, ou même des fois, dans des premiers temps, on va passer par l'évitement des magasins où on collectionne des petits bidules, je sais pas moi, de cosmétiques, des crayons, des choses comme ça. Donc, c'est une prise en charge qui n'est pas spécifique, mais qui va vraiment être individualisée en fonction de la difficulté de chacun qui aboutit justement à cette kleptomanie. Et sachant que, encore une fois, j'insiste là-dessus, c'est que le plus souvent, c'est associé à d'autres choses, des troubles de la personnalité, d'autres troubles mentaux, qui nécessitent, eux, une prise en charge spécifique.
D'accord. Alors, on revient toujours au rôle de l'entourage. Cet entourage devrait-il en parler donc aux malades ?
Oui, absolument. Alors, le plus souvent, l'entourage va d'abord être dans l'incompréhension, et le plus souvent, il y a une erreur de diagnostic, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on va parler de comportement délictueux. C'est-à-dire, voilà, quelqu'un qui vole pour la valeur hein, de l'objet ou par utilité, parce qu'il en éprouve le besoin, etc. Et donc, ça peut aboutir malheureusement à des tensions familiales, parce que le plus souvent, on va parler d'adolescents, de ce genre de choses, sachant que les petits vols comme ça répétés chez l'adolescent ne veulent pas forcément dire qu'il y a une kleptomanie qui s'installe. Hein, dans la kleptomanie aussi, il y a une dimension recherche de sensations fortes, une espèce de recherche du contrôle sur ce qui peut nous arriver ou pas, etc. Et donc bon, ça peut s'inscrire dans le cadre du processus normal à l'adolescence, ça peut s'inscrire dans le cadre de troubles de la personnalité qui sont en train de s'installer, etc. Et donc, juste pour dire que cette incompréhension va le plus souvent, bon, déjà cristalliser, si on parle de troubles de la personnalité, va probablement un peu plus aggraver les choses de la part de l'entourage, et il y aura aussi une absence de repérage, tout simplement, c'est-à-dire que on va pas proposer à la personne éventuellement d'aller consulter, d'aller parler de ce genre de choses avec un spécialiste et éventuellement mettre en route un traitement adéquat. Et autre chose, c'est que bon, souvent malheureusement, comme on est quand même dans une société qui est public, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on fait attention à notre renommée, etc. Ben, quand il y a, je sais pas, quand on va solliciter l'entourage parce que un tel a volé ça de tel magasin et que ça va se reproduire une dizaine, une quinzaine de fois, on peut imaginer aussi que l'entourage à ce moment-là va avoir une réaction un peu violente et une réaction un peu d'exclusion vis-à-vis de la personne concernée alors qu'elle est en souffrance potentiellement. Et ça c'est important parce que aussi le dernier message que j'aimerais adresser à l'encontre enfin, des parents, adressé aux parents, c'est justement le fait de faire ces vols, ben ça ne traduit pas du tout qu'on est un peu sociopathe ou qu'on rejette l'autorité ou ce genre de choses. Ça, c'est un raccourci extrêmement rapide. Encore une fois, j'insiste lourdement là-dessus. La kleptomanie, ben du fait justement que c'est vraiment des petits vols, qu'il n'y a pas de valeur marchande, qu'il n'y a pas d'utilité, d'utilisation, etc. Ben on n'est absolument pas là-dedans. On est vraiment dans le trouble du contrôle des pulsions et ça mérite qu'on s'y attarde.
Alors, vous parlez surtout des jeunes. Est-ce que cela n'arrive pas, c'est-à-dire à des âges plus avancés ?
Oui. Alors, je disais les jeunes, c'est parce que je parlais de l'adolescence où on peut avoir des comportements ressemblant à la kleptomanie, mais qui n'en sont pas. Mais on peut aussi avoir, chez des personnes d'âge un peu plus mûr, ce comportement qui apparaît pour la première fois. Là, le plus souvent, bon, ça va très très souvent s'intégrer dans plus de 75% des cas à un autre type de pathologie, qu'elle soit psychiatrique ou quelquefois même neurologique. Hein, il y a des pathologies démentielles qui vont se caractériser par le fait de ne pas pouvoir se retenir, de faire ce qu'on a envie de faire, et qui peuvent donner en fait l'image d'un kleptomane, mais le plus souvent il y a d'autres troubles du comportement qui sont associés, hein, et qui sont le plus souvent au premier plan.
Alors, y a-t-il toujours récidive ou pas, docteur Lorabi ?
Si on est dans une kleptomanie pure, où la personne n'est pas repérée et où la personne n'a toujours pas eu à consulter en se faisant prendre par un agent de sécurité ou ce genre de choses, j'ai envie de vous dire oui, on est dans la chronicité. La récidive, comme n'importe quel trouble du contrôle des impulsions ou comme je faisais tout à l'heure le parallèle avec les conduites addictives, j'ai envie de vous dire que oui, la récidive n'est absolument pas rare et que c'est souvent la règle. Mais justement, ces fameuses récidives et qu'est-ce qui les a déclenchées, ça nous permet, dans le cadre d'une prise en charge psychothérapeutique, par exemple, de mieux repérer les difficultés et d'arriver justement à pouvoir mettre en place des stratégies pour les éviter par la suite. Donc, c'est un peu le principe de l'expérience et de l'apprentissage, c'est-à-dire la récidive va être une expérience, on va l'analyser pour savoir qu'est-ce qui a été déclencheur et qu'est-ce qu'on aurait pu faire comme alternative et mettre en place ces stratégies justement pour diminuer la probabilité de ce genre de choses.
Alors pour toutes ces personnes qui nous écoutent et qui se reconnaissent, que conseillerez-vous, docteur Asma Lorabi, je rappelle que vous êtes psychiatre à Casablanca, ce sera ma dernière question.
Le conseil que je donnerai, c'est il ne faut pas minimiser et surtout que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui, en ayant ce genre de troubles, vont se retrouver un petit peu exclus socialement parlant et que à partir du moment où on éprouve une certaine souffrance qui est en relation avec ce comportement ou qu'on identifie qu'on n'arrive pas à s'arrêter, il ne faut pas hésiter à consulter des solutions. Peuvent être disponibles et peuvent vraiment être salvatrices.
Merci beaucoup, docteur Asma Lorabi. Et je vous dis à très très bientôt sur Médien. Et c'est un
avec
entretien
plaisir
à réécouter sur notre site médien.com. À très vite, docteur.